Et on a un président qui a le record d'impopularité de la 5e République. Il s'appelle François Hollande.
Sur l'écologie,
sur l'économie,
et sur la chérie,
on les sauvé car il a saigné.
Apprends-moi François,
apprends-moi François,
apprends-moi François,
il a saigné.
À chaque institut de sondage a son record d'impopularité pour François Hollande. L'IFOP, c'était 24%. Le BVA, aujourd'hui, c'est 26%. Et en fait, quand on regarde le record d'impopularité, le président de la République est à 73%. Selon le BVA, ça en fait le président le plus impopulaire de toute la 5e. Alors maintenant, il y a deux choses que l'on peut dire. Soit c'est « Tenez bon, monsieur le président ». Malgré ce record d'impopularité, parce que finalement, peut-être que la population, enfin vous qui nous écoutez, qui suivez l'actualité politique, finalement ça ne vous fait ni chaud ni froid. Tenez bon, monsieur le président, appliquez votre politique, ou alors c'est halte au feu. Monsieur le président, remaniez, dissolvez l'Assemblée nationale, faites quelque chose. 3216rmc.fr, est-ce que ça vous touche cette impopularité du président? Est-ce que ça l'empêche aujourd'hui de gouverner correctement? À vous de réagir, et sur internet rmc.fr, vous avez la consultation, vous pouvez voter. Est-ce que François Hollande doit remanier? Est-ce qu'il doit dissoudre? À vous de jouer. Didier Giraud.
Écoute, moi je trouve que c'est très symptomatique de notre société ça. Enfin, j'ai essayé d'analyser le truc, tu vois, au début de la 5e, les gens, ils avaient un président, ils votaient pour un président, toute leur vie ils votaient du même côté, et j'ai quand même le sentiment que depuis, allez, on va dire 2002-2007, ça s'accélère. Les gens, enfin je pense que les Français sont des veaux zappeurs, quoi. Les gens ils votent pour quelqu'un qui les fait rêver, Sarkozy a pas tenu toutes ses promesses, derrière ça, il y a eu un grand plan anti-Sarkozy, en 2012 on vire Sarkozy, le suivant te fait rêver, et dès le lendemain de son élection, on a vu le désamour naître. Et je pense que ça va de plus en plus loin dans la cote d'impopularité, parce que pour être élu avec notre type de suffrage universel, enfin ce rendez-vous entre un homme et la nation, ils sont obligés de te faire rêver, de te faire croire des trucs qui ne pourront pas tenir, et dès le lendemain les gens sont déçus. Et qu'est-ce qui va se passer là? C'est que tout le monde attend avec envie les prochaines élections pour rebasculer dans l'autre sens.
Donc c'est de la faute du français, c'est ce que tu dis toi.
Ouais,
en fait.
Je pense que c'est la société qui s'accélère en termes de zapping. Et le français a toujours été très versatile sur ce côté d'alternance, un coup d'un côté, un coup de l'autre.
Donc le président continue
De toute façon, il est là pour 5 ans. Il y aura beau lui mettre des bâches partout dans les élections qui viendront dans le milieu, de toute façon, il est là pour 5 ans.
Franck Tanguy.
Il y a quand même une bonne nouvelle dans ce sondage, c'est qu'à force de creuser, le président risque de trouver du pétrole. Donc ça, c'est quand même ou du gaz de schiste. Moi, je trouve que ça peut quand même aider dans la situation actuelle. En dehors de la plaisanterie, je trouve que tout ça ne m'étonne pas. Pourquoi ? Parce que moi, je pense qu'il y a un certain nombre d'erreurs qui ont été faites par François Hollande, et je vais les nommer. Choisir un premier ministre qui, comme lui, est un bisu du pouvoir réel. Je parle pas du pouvoir d'opposition qui est noble et qui peut être une école d'arriver au pouvoir réel, mais enfin deux qui n'ont jamais été ministres au pouvoir, ça fait un tandem qui à mes yeux ne fonctionne pas. Première chose. Deuxième chose, gouverner le PS. Enfin, gouverner le pays comme il a gouverné le PS. C'est-à-dire en rassemblant tout le monde autour de lui, avoir un gouvernement pléthorique, essayer de ménager la chèvre et le chou, de faire une synthèse permanente dans une situation de crise. C'est peut-être confortable quand on est dans un pays, dans un parti d'opposition et dans un pays qui est en bonne santé, mais ça ne fonctionne pas dans un pays qui est en crise.
Tu te prépares,
ratisser le pouvoir. T'as raison, à ratisser trop large, on met des cailloux dans ses chaussures.
Finalement, bien entendu. Là, on voit bien que ça ne fonctionne pas.
Donc, il tient pas, c'est en équipe gouvernementale.
Et puis, troisièmement, je pense avoir cru que la campagne et le pouvoir, c'était la même chose, et ne pas avoir pris conscience que la situation du pays était très difficile.
Enfin, ça fait 18 mois, plus de 18 mois maintenant, donc si tu veux, il y a des décisions, des mesures qui ont été prises, et aujourd'hui, 73% d'impopularité, il doit en tenir compte, il ne doit pas en tenir compte, continuer d'agir comme ça, changer de cap, dissoudre, remanier, changer de Premier ministre.
On peut envisager tous les scénarios, déjà celui de la dissolution, changer le Premier ministre, peut-être, mais je pense que c'était la situation d'avant. d'avant, du temps du septennat, du temps où Premier ministre pouvait être une alternative et apporter un nouveau souffle, un fusil, tout ça. Moi, je pense que la pratique du pouvoir telle qu'on l'a vue avec Nicolas Sarkozy fait que c'est plus une alternative qui va vraiment changer quelque chose.
Marianne Soubret.
Bah écoute, moi je suis assez d'accord avec Didier. C'est vrai que c'est le plus impopulaire puisque Nicolas Sarkozy au plus bas n'est jamais descendu aussi bas qu'est François 30, Hollande aujourd'hui. Et il est possible qu'il descende encore. Mais je suis assez d'accord qu'il y a cette idée chez le Français de l'homme providentiel et tu t'attends un peu à ce que le président soit magicien. Et il y a aussi le problème des hommes politiques qui sont obligés finalement quelque part pendant la campagne présidentielle de faire des promesses. Parce que regarde,
dis les mots, de te mentir.
Bah, regarde François Bayrou qui a eu justement ce discours, qui essayait d'avoir ce discours de vérité en tout cas. Bah, ça ne marche pas. Tu peux pas te faire élire en France si tu dis avoir des temps difficiles, etc. Donc non, mais attends, il s'est fait élire avec des promesses qui, en plus, il faut quand même le dire parce que ça a été dit et il y en a 80% et c'est la vérité qui ont commencé à être mises en place. Oui. Ça c'est une chose. Et je pense aussi qu'il faut pas oublier, pour reprendre une expression populaire et imagée, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. On verra.
On dit pas comme ça chez nous.
Ben c'est comme ça qu'on dit chez moi.
C'est la fin de la foire qu'on cote les bouts.
Voilà, mais quand tu as l'opinion, on verra à la fin du quinquennat.
Marianne, s'il n'y a plus personne sur la piste de danse, les musiciens peuvent continuer à jouer.
Franck, il est élu pour 5 ans. Lui, il s'en fout à la limite. J'ai envie de te dire, il est élu. Ce sont des sondages. Tu fais pas de la politique avec les sondages.
Mais Marianne, attends, une seconde. Finis, Marianne.
Non, tu fais pas de politique avec des sondages.
Donc il n'a pas à en tenir compte.
Aujourd'hui, sa légitimité, elle date du vote. Les Français ont voté pour lui, il est légitimement élu, il peut rester là où il est, il n'y a aucun problème pour ça. Après, en tenir compte si tu veux pour dire que Hérault et Hollande, c'est pas forcément le bon duo, oui, mais si tu veux, c'est pas avec...
Mais le sondage est une photographie de l'opinion, ça veut dire que c'est une opinion aujourd'hui qui...
Oui, mais l'opinion, elle peut changer, mais tu sais aussi bien que moi, Alain,
elle change pourquoi l'opinion ? Elle change si l'action change au sommet de l'État.
Si l'action qui est mise en place porte ses fruits, mais ça sera pas en deux jours, et ça au moins il ne ment pas quand il dit qu'on va mettre des mois à sortir de la
dire que Hollande tienne le cap, qu'il continue tel quel.
Ça a quand même des conséquences en termes d'autorité. On voit bien qu'au niveau du Parlement et du groupe socialiste, c'est un groupe qui est très difficile à tenir, qui était tenu du temps d'ailleurs où Hérault était à la tête de ce groupe, parce que j'ai des souvenirs d'opposition où il y avait une assez grande...
Ils étaient cinq dans
l'hémicycle. C'est pas vrai, le groupe socialiste était le deuxième plus important de l'Assemblée nationale, c'était un groupe important. Et là, on voit bien quand même que cette impopularité pose des problèmes d'autorité, quoi.
C'est la majorité, c'est Harlem Désir le problème. Attends, excuse-moi, le problème de la majorité, celui qu'on devrait changer tout de suite, c'est Harlem Désir, c'est lui qui devrait tenir ses troupes. C'est pas normal que tu aies, alors qu'ils sont dans la majorité.
Mais sauf que Marianne, il y a des fois aussi. Attention. C'est les ministres qui tweetent, qui sont pas d'accord avec des positions.
Mais ça, c'est Hérault.
Enfin, tu vois, on leur parlera après, mais moi, je crois que sur les quotas, aujourd'hui, t'as des ministres qui jouent contre le gouvernement.
On en reparlera après, mais rappelle-moi d'où viennent les quotas.
Non, mais t'as à l'intérieur même du gouvernement des ministres qui n'ont pas les oreilles dans le sens du vent. Quand on est là, t'as quand même un problème d'autorité, quoi. Hein,
Marianne, tu me dis, on a un problème aussi de pédagogie, c'est-à-dire celui qui devrait faire le job, vendre l'action du gouvernement.
C'est Harlem Désir. Évidemment. Évidemment, tu le vois où, Harlem Désir ? À quel moment ?
Sur l'affaire Leonarda, tu l'as entendu.
Leonarda, il vient dire exactement l'inverse quasiment de ce qu'avait dit. De la vraie connerie, il faut le reconnaître, de François Hollande. Parce que là, François Hollande, dans le genre, on ne pouvait pas dire plus bête, il l'a fait. Bon, d'accord. Donc là, pour une fois, Harlem Désir...
Ça
n'a
pas joué en sa faveur dans les sondages.
C'est ça, tu perds à chaque fois.
Mais pour une fois, Harlem Désir, pour une fois, j'étais... Non, je n'étais pas d'accord avec lui parce que je n'ai pas envie que toute la famille revienne. Mais il y a eu, en fait, dans l'affaire Leonarda aussi, un gros problème de gestion de crise de la part du président. D'abord, pourquoi c'est lui qui parle et pas le ministre de l'Intérieur ou le Premier ministre ?
Avant de redonner la parole, Franck, mais tu vois, j'ai une première action qui arrive sur internet rmc.fr, où c'est Maxime qui écrit « Bonjour les grandes gueules, je vous écoute et depuis hier, j'entends parler de ce sondage sur François Hollande, c'est 73% de mauvaises opinions. Vous voulez que je vous dise franchement, moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on a un président de la République qui a peur, dit-il, qui a peur de l'opinion, qui a peur des éditorialistes, qui a peur de quelques manifestants et qui n'ose pas appliquer une politique claire pour laquelle les Français, dont moi, me dit-il, nous l'avons élu. Christophe Barbier est avec nous. Bonjour Christophe.
Bonjour.
Directeur de la rédaction de l'Express, et c'est pour vous entre autres hein, qui a été fait ce sondage BVA, 73% de bonnes opinions. Alors la question qu'on se pose dans les grandes gueules de mauvaises opinions, François Hollande doit-il en tenir compte? Déjà, comment expliquez-vous ces 73%, Christophe Barbier?
Je pense qu'il y a plusieurs phénomènes qui se sont additionnés. D'abord, il y a l'affaire Leonarda, qui est une cassure, en effet, dans la relation entre l'opinion et le président de la République, comme vous l'expliquiez dans les minutes qui précédaient. Ensuite, il y a l'absence de résultats. Le président de la République a promis une baisse du chômage pour la fin de l'année, même s'il arrive avec les statistiques à jouer sur les chiffres, ça ne convaincra pas les Français. Ils pensaient que la crise se terminerait en 2013, après 5 ans de crise. C'est un échec. Puis troisièmement, il y a ce personnage présidentiel, François Hollande, qui n'arrive pas à s'incruster, qui n'arrive pas à se solidifier, qui reste une espèce de ciment liquide, de ciment un peu mou, et les Français finissent par douter de lui. Et à 26% de bonnes opinions, c'est-à-dire en dessous des 30, il est en train d'approcher de la zone d'illégitimité. Et ça, c'est très inquiétant pour un dirigeant.
Monsieur Barbier, bonjour. Illégitimité du suffrage universel, mais vous avez vu ça où, monsieur Barbier? Quelqu'un qui est élu, il est élu pour 5 ans en illégitimité par les sondages. Excusez-moi, mais c'est pas être républicain et démocrate.
Mais l'illégitimité veut pas dire qu'on met en cause son élection. Il est élu en effet pour 5 ans, mais ça veut dire
donc
que le président, chaque fois qu'il bougera, chaque fois qu'il parlera, ça n'aura aucun impact sur l'opinion parce qu'il n'est plus écouté. Et donc, il devra procéder par des remaniements, peut-être à un moment donné par une dissolution. Il devra aller chercher ailleurs un nouveau contact avec le peuple que visiblement
mais
il a perdu.
Mais c'est pas l'opinion qui doit faire avancer le président quand même. Enfin, je veux
non,
dire,
c'est
attendez,
le président
il a
qui doit faire bouger
élu.
L'opinion. C'est le président qui doit changer l'opinion des Français, faire bouger ce pays. Et il n'y arrive pas. Non, il n'y arrive plus. Il est paralysé.
L'illégitimité, si vous voulez, la façon dont vous déterminez l'illégitimité, ça voudrait dire que quand vous arrivez en dessous des 26, 27 ou 25% d'opinions favorables, qu'est-ce qu'on fait? On fait un coup d'État? C'est ça, en fait, votre raisonnement?
Non, absolument pas. Simplement, le président sait que désormais, pour faire passer une idée ou une réforme, eh bien, sa seule parole est insuffisante parce que les Français...
Il
n'a pas le Parlement avec lui. La majorité est très indisciplinée. Les écolos sont un pied dedans, un pied dehors. Des députés à la gauche du PS n'ont même pas voté la réforme des retraites. C'est la pagaille sur la fiscalité, sur les PEA. On fait un pas en avant, deux pas en arrière. Il n'y a pas d'ordre dans la majorité. Il n'y a pas d'autorité au gouvernement. Cette crise du pouvoir exécutif, elle frappe François Hollande au cœur. Et c'est ne pas s'en rendre compte, c'est ne pas lui rendre service, parce qu'il faut l'alerter là-dessus.
Christophe Barbier, franchement, vous qui suivez l'actualité politique depuis longtemps, est-ce que c'est grave ce qui se passe en ce moment ou pas? C'est un phénomène simplement qui risque de bouger dans les semaines qui viennent avec un bon résultat économique?
Non, il faudra plusieurs mois consécutifs du seul résultat qui compte pour les Français, c'est de la baisse du chômage. Si en effet Hollande, grâce à une sortie de crise dans les prochains mois, arrive à additionner 6-7 mois de baisse du chômage, tout cela se reconstruira. Et de nouveau, l'opinion sera avec lui et dira bah, finalement, il avait raison d'être patient et il avait raison de nous emmener dans cette direction. Pour l'instant, on ne le voit pas venir. Ce qui va faire basculer peut-être dans la gravité absolue, c'est si on passe à des violences qui s'enchaînent. Ce qui va se passer à Quimper samedi, ça peut être une vraie alerte. Ouais, pour l'instant, tous les conflits sont restés des petits coups d'éclair de ci, de là. Il y a eu les Conti, il y a eu Florange, il y a eu les lycéens. Ça ne coagule jamais. Si maintenant on a une réaction en chaîne entre celui qui possède un PEA et celui qui sauve son emploi chez GAD, eh bien là, on pourrait être dans une situation extrêmement inquiétante, comme ce pays a connu à plusieurs reprises. La dernière fois, c'était mai 68.
Et moi, j'ai une question, monsieur Barbier. Dans le précédent quinquennat, est-ce que vous trouvez quelques similitudes? Parce que moi, j'ai le sentiment que à cette table aux grandes gueules il y a quelques années, on commentait aussi la chute dans les sondages de Nicolas Sarkozy, qui n'arrivait pas à tenir ses ministres, qui tweetait, qui n'arrivait pas à tenir sa majorité. J'y vois quelques similitudes, en moins graves peut-être.
Oui, et il y a deux différences. D'abord, la personne de Nicolas Sarkozy était rejetée, son style bling-bling, les Français n'aimaient pas ça. C'est pas le cas avec Hollande, personne n'en veut à la personne de Hollande. En revanche, l'incarnation de l'autorité présidentielle par Nicolas Sarkozy, un an et demi après son élection, c'était lutter contre la crise de 2008, c'était intervenir en Géorgie, c'était présider l'Europe, et du coup, François Hollande n'est pas un pilote de l'avion, alors que Nicolas Sarkozy pilotait l'avion, d'accord. Même si certains n'étaient pas d'accord avec le cap. Franck, c'est ça la différence.
Franck Tanguy, une dernière question.
Je pensais que ce qui mettrait le feu aux poudres en France, ça aurait été le prix de l'essence, comme le pain était le déclencheur des révoltes du temps de la royauté. Et je me demande si actuellement, c'est pas l'impôt qui est en train de mettre...
qui a fait soulever le peuple. Hein,
oui, mais enfin, souviens-toi que les femmes ont marché sur Versailles à cause du prix du pain. Hein, c'est comme ça que le roi a été ramené à Paris et qu'ensuite tout s'est enclenché. Mais, et du coup, j'ai plutôt le sentiment que c'est l'impôt. Et moi, je suis en train, à mon petit niveau
de conseiller
en investissement financier, je vois que le consentement à l'impôt, c'est quelque chose qui est en train de céder et céder la place à quelque chose qui est la révolte contre l'impôt. Parce que finalement, l'utilisation de l'argent devient illégitime.
C'est ça.
Et je me tourne vers Christophe Barbier pour lui demander ce que vous ressentez par rapport à ça, parce que j'ai le sentiment qu'on est en train de basculer là.
Oui, c'est très important ce qui se passe en cet automne. Le président qui annonce la pause fiscale, le Premier ministre qui le déjuge, tout le monde se rend compte qu'il n'y a pas de pause, qu'il y a une continuité du matraquage fiscal. Ouais. En effet, vous avez raison, c'est très important. D'autant plus que si la France peut emprunter à des taux d'intérêt faibles, c'est parce que les prêteurs considèrent qu'en France, il y a un État qui arrive à collecter les impôts et que les gens râlent, mais payent. Si demain, ils ne râlent plus... Il râle toujours, mais il ne paye plus. Là, on finira par emprunter très cher. Et rappelez-vous aussi que l'extrême droite actuelle, Jean-Marie Le Pen, il a commencé comme député poujadiste, c'est-à-dire un mouvement de contestation du fisc, en 1956. Et donc là, on a le même cocktail explosif que dans ces années-là.